Merci d'écouter RFI, les 7h à Paris, 8h à Damas.
RFI Matin.
Et 5h en temps universel. Bonjour Martin
Guez. Bonjour Brian, bonjour à toutes et à tous.
Des fêtes de Pâques sous le signe de l'apaisement en Syrie.
Et de la communion entre les religions. La Syrie morcelée, fracturée, endeuillée après les violences communautaires de début mars. Près de 1400 morts pour la majorité issue de la minorité alaouite. Cette première Pâques depuis la chute du régime de Bachar al-Assad avait une saveur particulière au monastère de Marmoussa. Reportage à suivre dès le début de ce journal.
Début de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien ce lundi.
Tournée qui le mènera à La Réunion, à Madagascar ou à Maurice et qui débute à Mayotte. 4 mois après le passage du cyclone Chido, le président français est de retour dans l'archipel. En Ukraine, fin d'une drôle de trêve de 30 heures qui n'a jamais vraiment débuté et qui ne laisse que très peu d'espoir. En vue d'une paix durable, à Kinshasa, les relations entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont au plus bas. L'ancien président accusé de haute trahison par le gouvernement congolais. Enfin, Andréane, on terminera par un petit déj avec les Américains de Japanese Breakfast. De retour avec un 4e album, un album pour les brunes mélancoliques et pour tous les autres, nous dira José Marinho.
De Damas à Alep, les chrétiens de Syrie ont célébré leur première fête de Pâques depuis la chute de Bachar al-Assad.
La Syrie, toujours sous tension après les massacres qui ont visé la minorité alaouite, celle de l'ancien dictateur Bachar al-Assad. Des massacres qui ont eu lieu au début du mois de mars. Ce week-end de Pâques doit marquer un moment de communion dans le pays entre les communautés, entre les religions aussi, comme au monastère de Marmoussa, situé au nord de Damas, qui a accueilli des célébrations réunissant chrétiens et musulmans. Monastère symbole du dialogue interreligieux en Syrie, où s'est rendue notre correspondante Manon Chaplin.
Il est 4h du matin et des cantiques s'élèvent à travers le monastère. À l'intérieur des tapis, des bibles et des bougies, une vingtaine de croyants pour célébrer la messe de Pâques se sont rassemblés ici. Avec les récentes tensions communautaires, Marmoussa, perché sur les hauteurs du massif de Kalamoun, c'est pour Ranim Ibrahim, transformé en refuge.
J'ai peur car il y a trop de violence. Ici, vous pouvez échapper à la peur, car tout le monde s'aime. Pas parce que tu es chrétien ou musulman, simplement parce que tu es humain.
Ne pas faire de différence entre les communautés, dialoguer, c'est pour cela que ce monastère a, dans les années 80, été rénové. Une quinzaine de religieux catholiques qui reçoivent régulièrement des musulmans organisent des prières communes. Iyam Ekber est arrivé ici il y a 4 jours.
Je suis musulmane, mais ici, ils ne me font pas sentir que je suis différente. Mon père était un combattant durant la Révolution. Le père Djihad a prié pour lui et il a réussi à toucher très profondément mon cœur.
Depuis l'enlèvement de son fondateur, le père Paolo Dall'Oglio, par l'État islamique en 2013. C'est lui, le père Jihad Youssef, qui a repris le contrôle du monastère. Durant ses messes, il prêche des messages d'amour, de paix.
Et on essaye, dans cet contexte de tension, de vengeance, de dire qu'il faut le courage pour vaincre la haine. L'amitié peut sauver le monde.
L'amitié pour sauver le monde, l'amitié, ajoute-t-il, pour, après plus d'une décennie de guerre, reconstruire ensemble la Syrie. Manon Chaplin à Marmoussa, RFI.
Et on reparle de la Syrie ce matin, dans un peu plus d'une heure, avec notre grande invitée internationale, Sophia Amara, grand reporter, réalisatrice du documentaire « Syrie à l'épreuve du pouvoir ». Elle répondra aux questions de Gaëtan Plenet.
Toujours au Moyen-Orient, de nouvelles frappes au Yémen.
Les rebelles houthis qui font état de 12 morts lors de raids imputés aux États-Unis sur la capitale Sanaa, 2 jours après des frappes nocturnes américaines qui ont fait 80 morts dans le port pétrolier de Ras Issa. Le porte-parole du patron de l'ONU, Antonio Guterres, se dit gravement préoccupé par la multiplication de ces frappes.
4 mois après Chido, Emmanuel Macron est de retour à Mayotte.
Le président français qui doit atterrir dans quelques minutes pour les débuts d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien. Mayotte, souvenez-vous, dévastée en décembre dernier par le passage du cyclone Chido qui a fait 40 morts, des milliers de blessés et des milliards d'euros de dégâts. La reconstruction qui se fait très lentement. Emmanuel Macron avait promis de revenir sur place. Promesse tenue donc, et les Mahorais qui l'attendent au tournant, Valérie Gasse.
Tenir son engagement, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron de retour à Mayotte 4 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. En décembre, le chef de l'État avait constaté les ravages, les bâtiments et les infrastructures étaient détruits, la population exsangue. Le président de la République était venu manifester le soutien de la nation aux Mahorais et faire des promesses. Il avait d'ailleurs été confronté à la colère de certains habitants qu'il avait pris à partie. Depuis, les visites ministérielles se sont succédées, une loi d'urgence a été adoptée. Emmanuel Macron revient selon l'Élysée pour voir comment on a réparé les blessures et engagé engager la phase de reconstruction, alors que le nouveau projet de loi sur la refondation doit être présenté ce soir lors d'un conseil des ministres en visio qu'Emmanuel Macron présidera de son avion. L'ambition affichée est que Mayotte soit plus belle qu'avant le cyclone, explique l'entourage du président. Un défi au vu de l'ampleur des travaux encore à réaliser et de l'impatience de la population. Emmanuel Macron a prévu de rencontrer les élus et les habitants pour faire un premier bilan sur l'avancement des chantiers, mais aussi la question très sensible de l'immigration clandestine en provenance des Comores et des expulsions dont il avait fait une priorité en décembre. Valérie Gasse, Mayotte, RFI.
Et la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien que l'on suivra sur RFI, elle durera 5 jours et le mènera à La Réunion, à Madagascar et à Maurice.
Une trêve qui n'en avait que le nom en Ukraine.
Une trêve de 30 heures décrétée par la Russie qui a pris fin cette nuit. Mais avait-elle seulement débuté? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce plus de 2000 violations de ce cessez-le-feu express. Moscou fait état d'attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk et sur plusieurs villes frontalières. Les espoirs d'un arrêt des combats plus durable s'éloignent malgré les promesses du président américain Donald Trump de mettre fin rapidement au conflit. Lui qui s'est dit agacé alors que les négociations sont dans la pince.
Les États-Unis où les réfugiés ukrainiens ne se sentent plus vraiment les bienvenus.
Et la Maison-Blanche qui dit réfléchir à la fin du statut de protection dont ils bénéficient. Ce qui inquiète beaucoup Misha, il est originaire de Zaporijjia, il est arrivé aux États-Unis avant l'invasion russe et il manifestait ce week-end à Austin, au Texas, pour soutenir son pays.
La situation m'inquiète. Si l'administration Trump décidait comme ça, sans prévenir, de les expulser, de dire à 200 000 personnes, retournez dans un pays en guerre, en pleine invasion, où leur vie serait en danger, ce serait inhumain. D'un point de vue humanitaire, ce serait scandaleux. Je ne comprends même pas que ce soit, ne serait-ce qu'envisagé par cette administration. De manière générale, je suis très déçu. Les États-Unis sont censés être un pays fort, qui n'a peur de personne. Et on se comporte comme si on avait peur de la Russie. Et on s'en prend à un pays comme le Canada. Ça n'a pas de sens. C'est le monde à l'envers.
Le témoignage de Misha, rencontré à Austin par notre envoyé spécial au Texas, Nathanaël Vitran, et dans un message succinct sur son réseau social True Social, Donald Trump a toutefois dit espérer un accord dans la semaine entre la Russie et l'Ukraine.
Toujours aux États-Unis, puis Texet dans la tourmente.
Et les Américains appellent ça désormais le Signal Gate. Le ministre de la Défense, qui avait déjà partagé des informations sensibles sur une frappe au Yémen dans un groupe de messagerie au mois de mars, dans une conversation à laquelle participait un journaliste invité par erreur. Et bien le même jour, puis Texet a récidivé dans un autre groupe Signal avec son épouse, son frère ou son avocat, ainsi qu'une dizaine de personnes de son entourage personnel avec qui il a partagé des informations hautement sensibles, comme le révèle le New York Times. Le Patagone qui n'a pas réagi à ces informations.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Kinshasa où il est 6h08, Kinshasa où le gouvernement cible Joseph Kabila.
Signe des relations exécrables qu'entretiennent l'actuel président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, accusé de haute trahison par Kinshasa pour son implication présumée aux côtés de la FCM23. Les activités de son parti, le PPRD, ont elles été suspendues et tous les biens immobiliers de celui qui a dirigé la RDC de 2001 à 2018 ont été saisis. Explication, Paul Lorgery.
Le 24 janvier 2019, lors de l'investiture de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila affichait un large sourire en remettant à son successeur l'écharpe présidentielle qu'il l'avait habillée pendant près de 18 ans. Les deux hommes s'étaient même tombés dans les bras avant de se saluer d'une franche poignée de main. Tout cela, c'était avant que Félix Tshisekedi tourne le dos à celui que l'on surnomme le Rice. En 2021, la majorité parlementaire dont ce dernier bénéficie rejoint en partie la cause du nouveau président. Tombé dans l'opposition, Joseph Kabila se réfugie alors derrière les murs de sa ferme proche de Lubumbashi, ne donnant quasiment plus de signes de vie. Avec une faible représentation à l'Assemblée et devenu critique du pouvoir, il donne ordre aux députés de sa formation politique de ne pas se représenter aux élections de décembre 2023. Enfermé dans son mutisme, les critiques à son égard se multiplient. Kinshasa le soupçonne de soutenir la rébellion du M23. Des accusations qui se sont concrétisées avec la suspension du PPRD et des poursuites judiciaires engagées contre lui. En cause, son probable passage à Goma, sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité, développe un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur. Si l'on ignore pour le moment où l'ancien président se trouve, son entourage a assuré qu'il s'exprimerait sous peu.
Toutes nos informations, toutes les réactions à ces mesures prises par Kinshasa contre Joseph Kabila qui sont à retrouver sur notre site internet RFI.fr.
Nouvelle audience pour Yoon Suk-yeol en Corée du Sud.
L'ex-président qui comparaît toujours pour insurrection après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays début décembre. Yoon Suk-yeol destitué et ses partisans qui se sont depuis radicalisés. Le camp Yeol qui accuse Pékin d'avoir précipité la chute du président. Un discours qui alimente le sentiment anti-chinois en Corée du Sud, ce qui a donné lieu à de violentes manifestations dans plusieurs quartiers chinois de Séoul, ces lieux Fioretti.
Les Chinois et les Rouges dégagés, c'est ce que scandent les soutiens du président destitué Yoon Suk-yeol dans les rues de Jayang, un quartier de la capitale Séoul connu pour ses nombreux restaurants chinois. Une manifestation organisée par un millier d'étudiants pro-Yoon, la frange la plus radicale de ses soutiens. Venus perturber en soirée les restaurateurs chinois, ils en sont venus aux mains avec l'un d'entre eux. Ce dernier a été hospitalisé. Après cet incident, la communauté chinoise s'inquiète d'une escalade de la violence de la part des manifestants. Depuis le mois de décembre, les cadres du Parti conservateur et ses militants accusent la Chine communiste d'avoir fomenté les troubles qui ont mené à la chute du président Yoon, une théorie du complot largement relayée et qui se concrétise aujourd'hui par ses violences envers la communauté chinoise. L'ambassade de Chine en Corée du Sud a exprimé ses regrets quant à la montée du sentiment anti-chinois dans le pays et invité ses ressortissants à se tenir éloignés de toute manifestation politique. Au mois de février, un partisan du président Yoon avait tenté de rentrer de force dans l'ambassade de Chine à Séoul. La police coréenne a annoncé depuis renforcer son dispositif dans les quartiers chinois susceptibles d'être victimes de violences. C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
On termine avec un petit déjeuner japonais, petit déjeuner musical, Martin.
Eh oui, ça tombe bien, Andréane, c'est l'heure du petit-déj, l'heure de Japanese Breakfast, un groupe américain de Philadelphie de retour avec un quatrième album for Melancholy Brunette and Sad Woman pour les brunes mélancoliques et les femmes tristes. Un petit remède à la mélancolie qu'a testé pour nous José Marinho.
L'américaine d'origine coréenne Michelle Zauner est la tête pensante de Japanese Breakfast. Chanteuse, autrice, compositrice, écrivaine aussi, on lui doit en 2021 Pleurer au supermarché, un best-seller sur la mort de sa mère cuisinière coréenne, vendu à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis. Et son nouvel album parle encore et toujours de ce qui lui échappe, le deuil, comme ici. Pour son nouveau projet, elle a travaillé avec un casting 5 étoiles. On retrouve à la production Blake Mills, guitariste sur le dernier album de Bob Dylan, mais aussi Jim Keltner qui a collaboré avec John Lennon. Mention très bien pour ce disque de Japanese Breakfast qui s'éloigne des nappes synthétiques de ses débuts en 2016 et gagne en finesse. Place à des sonorités plus organiques, violon langoureux, piano voilé, batterie à peine effleurée.
Et un petit déj qui se prolonge sur RFI puisqu'on retrouve Japanese Breakfast et José Marinho pour le choix musical du jour à la toute fin de RFI Matin.
Et ce sera juste avant 10h. Pour l'instant, il est 7h13 à Paris. Merci Martin Guèze. Et tout de suite, c'est le début de 3 heures d'infos que l'on va passer ensemble et avec toute la rédaction dans le monde au programme de ce lundi 21 avril 2025. L'Ukraine, quelques heures après la fin de la trêve décidée unilatéralement par la Russie pour Pâques, alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté ce court cessez-le-feu. Le week-end a aussi été marqué par des libérations de prisonniers côté russe et côté ukrainien. Et si cela a de quoi réjouir certaines familles, d'autres attendent toujours le retour de leurs proches.
Nous avons beaucoup de prisonniers de guerre et des civils qui sont en captivité. Et ils le sont dans de très mauvaises conditions, sans respect de leurs droits humains les plus élémentaires. Et j'ai personnellement beaucoup d'amis militaires qui ont disparu. C'est pourquoi je viens ici, parce que je peux avoir un certain impact.
Un sujet signé Emmanuel Chaz a retrouvé dans le journal de 9h. Nous serons aussi à Mayotte ce matin, 4 mois après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel français. Emmanuel Macron est en visite aujourd'hui avec beaucoup d'attentes sur place. RFI, ce sont des reportages, des invités aussi. Ce matin, la réalisatrice et grand reporter Sophia Amara qui signe un documentaire sur le nouveau pouvoir en Syrie. Autre invité ce matin, le ministre centrafricain, conseiller spécial Fidel Guanchica. Il confirme aujourd'hui sur notre antenne la volonté des autorités de son pays de dialoguer avec l'opposition avant la prochaine présidentielle. Entretien à suivre dans une demi-heure. À suivre aussi ce matin la presse avec Frédéric Couteau, le sport avec Victor Missistrano. On est ensemble jusqu'à 10h. Bienvenue, vous avez le programme. Et d'abord, direction le Japon pour notre rendez-vous, la Une en Asie, où un chiffre publié par le ministère de l'Intérieur fait beaucoup réagir. Plus 92%, c'est l'augmentation du prix du riz par rapport à l'an dernier, à la même période. Bonjour Bruno Duval.
Bonjour Andréane et bonjour à toutes et tous.
Correspondant d'RFI à Tokyo, Bruno, dans un pays où le riz fait partie des principaux ingrédients utilisés. On comprend bien sûr que ce pourcentage fasse réagir, plus 92% en fait. Eh bien ça veut dire que le prix du riz a quasiment doublé en un an. Comment ça s'explique ?
Le prix du riz a commencé à augmenter l'été dernier en raison de mauvaises récoltes dues au réchauffement climatique. Ensuite, l'alerte au méga-séisme lancée par le gouvernement a aggravé les choses. Les sismologues redoutant un tremblement de terre majeur, les gens ont fait des stocks de riz, de peur d'en manquer. Le nombre record de touristes étrangers venant au Japon joue aussi. Ils consomment énormément de riz dans les restaurants. Et puis, cette crise est également, pour partie, spéculative. Des cultivateurs, des distributeurs et des grossistes tardent sciemment à commercialiser le riz qu'ils possèdent, se disant qu'ils ont intérêt à retarder sa mise sur le marché puisque son prix de vente ne cesse d'augmenter.
Et alors Bruno, comment réagissent les consommateurs ? On va entendre un des Tokyoïtes que vous avez interrogé.
Avec une telle inflation, ça devient vraiment difficile de boucler ses fins de mois et de manger équilibré.
Je mange du pain par exemple. Avant, moi, le riz, c'était matin, midi et soir, mais désormais mais c'est une fois par jour, pas plus.
La mort dans l'âme, je me rabats sur les pâtes ou les nouilles. C'est pénible, mais il n'y a pas d'autre solution.
Des habitants de Tokyo résignés, que font les autorités face à cela ?
Depuis le mois de mars, elles ont mis sur le marché plus de 200 000 tonnes de riz provenant des entrepôts gouvernementaux, où 1 million de tonnes de cette céréale sont stockées en permanence, pour si jamais, par exemple, une catastrophe naturelle majeure survenait, perturbant ou empêchant la récolte. Sauf que ce riz déstocké, on ne le trouve pas dans tous les magasins, comme en témoigne ce détaillant.
L'État fait livrer prioritairement ce riz aux hypermarchés, pas aux petits commerçants, et puis aussi aux restaurants pour les touristes. Inutile de vous dire que cela suscite le mécontentement de mes clients.
Le mécontentement, dit ce marchand de riz, mais Bruno, les médias japonais, eux, parlent carrément de révolte.
La révolte du riz. L'expression revient en boucle dans la presse en ce moment et il renvoie à une page sombre de l'histoire. En 1918, en raison déjà du prix de cette céréale, il y eut pendant 3 mois des émeutes, des pillages, des grèves, des mises à sac de magasins, etc. Et la répression policière fut terrible, des milliers d'arrestations et la condamnation à mort des meneurs du mouvement. Alors 107 ans plus tard, on n'en est évidemment pas là aujourd'hui, mais l'envolée du prix du riz a fait dégringoler la cote de popularité du gouvernement à un niveau plancher, historiquement bas dans les sondages. Or, des élections se tiendront ici cet été. Donc si entre-temps la situation ne s'est pas améliorée, eh bien cette crise du riz, elle pourrait avoir des conséquences importantes sur le plan politique.
Bruno Duval, correspondant d'RFI à Tokyo, avec nous pour la Une en Asie ce matin. Merci à vous Bruno. RFI Matin, on reste ensemble dans une dizaine de minutes, le retour de l'information africaine. Et dans une heure, notre grand invité international sur la radio du monde. Bonjour Gaëtan Plenaire.
Bonjour Andréane, bonjour.
On en parlait dans le journal, les chrétiens de Syrie viennent de célébrer leur première fête de Pâques depuis la chute de Bachar al-Assad. C'était il y a 5 mois, la Syrie depuis dirigée par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham. Et notre invité ce matin est Sofia Amara, spécialiste du Proche-Orient, grand reporter. Elle a réalisé le documentaire « Syrie à l'épreuve du pouvoir » qui sera diffusé demain sur Arte.
Oui, un documentaire tourné quelques jours seulement après la chute du pouvoir dans un pays qui finalement n'est pas plongé dans le chaos le plus total. On aurait pu s'y attendre, c'est vrai, après des années de guerre civile. Mais non, la population exulte. Mais il y a quand même cette phrase prononcée par l'une des personnes filmées qui dit les 3/4 des Syriens n'ont pas encore de raison de célébrer car ils ont un proche disparu. Alors ce documentaire, eh bien, il nous emmène aussi à la rencontre des fantômes dans les geôles de l'ancien régime avec ces traces de sang sur les murs, ces doigts coupés dans les cellules. Et là on comprend que l'arrivée des nouvelles autorités ne suffira pas à panser les plaies, ou en tout cas que ça mettra plus de temps que prévu et que l'enthousiasme côtoiera forcément les larmes. On en parle tout à l'heure avec Sofia Amara.
À tout à l'heure Gaëtan, rendez-vous 6h20, temps universel pour cet entretien. Et ce matin à suivre suivre également notre reportage international en Syrie, 5 ans après la chute du califat de l'État islamique, alors que la question du retour des djihadistes étrangers n'est toujours pas réglée. Reportage dans un camp de réhabilitation pour les jeunes mis en place par l'administration kurde, à écouter donc à 9h15 sur RFI. En France, ils sont beaucoup à se faire baptiser à l'occasion des fêtes de Pâques, événement le plus important dans la religion catholique qui célèbre la résurrection du Christ. Et ils sont même de plus en plus nombreux, si l'on en croit les chiffres de la conférence des évêques. Selon ces chiffres, le nombre d'adultes baptisés pour Pâques a quasiment doublé par rapport à 2024. Ils sont plus de 10 000 à franchir le pas cette année, et cela malgré les nombreux scandales qui frappent l'Église ces derniers mois. Alors d'où vient cet intérêt soudain des jeunes adultes pour le catholicisme? À Paris, Sophie Volatier-Godard.
La paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le 15e arrondissement de Paris, se réjouit. Une vingtaine d'adultes se préparent au baptême, une première depuis très longtemps.
C'est comme si on avait le mode d'emploi de la vie, en fait.
Gabriel est l'un d'entre eux.
Ouais, c'est ça.
À 20 ans, il est étudiant en école de commerce et handballeur professionnel. Son chemin vers le baptême commence il y a 4 ans. À l'époque, il traverse des difficultés.
Ça m'apporte une stabilité, beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. C'est comme si on était accompagné d'un guide qui nous aide à faire le bien autour de nous. Et en fait, ça m'aide à être une meilleure personne.
À quelques kilomètres, dans le 11e arrondissement, à la paroisse Saint-Joseph des Nations, Ferdinand, 24 ans, vient lui aussi d'être baptisé après 1 an et demi de préparation.
C'est avant tout une espèce de façon de comprendre nos vies. C'est un moyen d'accepter l'absence de réponse. Beaucoup de paradoxes aussi.
Pour cet étudiant à Sciences Po Paris, le baptême a été motivé par un événement bien particulier.
C'est devenu une idée relativement concrète pour moi lorsque j'étais en échange universitaire en Amérique du Sud, au Chili en l'occurrence. Et j'ai passé 1 an là-bas, à aller de plus en plus fréquemment à la messe. Et à mon retour, j'ai entamé la préparation au baptême. C'est des motivations très personnelles, liées à des réflexions, des lectures.
Selon Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, les baptêmes des adolescents et des adultes sont en hausse depuis 2 ou 3 ans.
Apparemment, il y a un retour un peu spontané. Alors spontané veut dire par là, suite à une rencontre de quelqu'un évidemment, lors d'un événement, on va à un baptême, à un mariage, on va à une messe, à un pèlerinage, des choses de ce genre-là.
Peu d'enquêtes ont été menées sur le sujet, mais il semble que la hausse des baptêmes relève d'abord de démarches individuelles. Il ne s'agirait donc pas d'un mouvement de société. Mais il pourrait y avoir d'autres raisons.
L'incendie de Notre-Dame n'aurait pas éventuellement joué un rôle, par l'énorme rappel que ça a été quand même, hein, de la possibilité d'une catastrophe, quoi, quelque chose de ce genre-là, qui frappe notre tradition religieuse, tout simplement, notre tradition catholique française, hein.
Toujours d'après Jean-Louis Schlegel, cela ne suffira pas à sortir l'Église de la crise qu'elle traverse. Aujourd'hui, seuls 2% des Français se disent catholiques pratiquants.
Reportage à Paris de Sophie Volatier-Godard.
RFI Matin.
RFI, notre question d'environnement comme chaque matin. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
Avec vous, on s'intéresse aux ennemis de l'environnement et du climat. On connaît Donald Trump, le président américain, de retour au pouvoir depuis 3 mois. Mais il y en a d'autres, Florent, qui sont les visages de l'international climato-sceptique.
Eh bien, le premier d'entre eux est un visage orange. Vous venez de le nommer, Andréan, Donald Trump, négationniste de la crise climatique.
It'll start getting cooler.
Ça finira par se refroidir, vous verrez. Je ne pense pas que la science le sache vraiment.
Et depuis 3 mois et 1 jour, c'est une litanie de coups portés contre l'environnement jusqu'à la reprise de la pêche dans un sanctuaire de l'océan Pacifique annoncé il y a 3 jours.
Et Donald Trump a fait des petits.
Au sud des États-Unis, vous allez tout de suite deviner de qui on parle. Javier Milei, le président argentin, et sa tronçonneuse. Alors, il n'a pas encore menacé de s'en servir pour couper des arbres. Mais vous pouvez nous rappeler, Andréan, l'une de ses déclarations choc.
Tous ces politiques qui accusent l'homme d'être responsable du changement climatique sont bidons. C'est un mensonge des socialistes.
Vous parlez bien le Javier Milei, Andréan. Alors,
tout... Je sais pas si je dois bien le prendre.
On va citer aussi Vladimir Poutine. Sous son règne depuis 2000, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 23%. Une économie russe fossilisée. Au Kremlin, on se réjouit de la fonte route du permafrost, les terres gelées de Sibérie pour exploiter les minerais et les hydrocarbures. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi surfe sur l'ambiguïté. Lui qui avait boycotté la COP29, le dernier sommet mondial pour le climat. On peut aussi citer en Europe le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Alors, est-ce que vous devinez, Andréane, le point commun de tous ces ennemis du climat? Et parfois, c'est moi qui pose des questions, vous voyez.
Ce sont des hommes?
Ce sont des hommes, oui. C'est vrai, mais qui ne sont pas très démocrates et pas très libéraux, nationalistes et populistes. On va écouter ce qu'en dit Alain Wagener. Il est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille. Le climato-scepticisme est un populisme.
On disait souvent, il y a quelques temps, oh là là, l'écologie c'est terrible, ça donnera des régimes qui seront des régimes autoritaires verts, les fameux Khmer verts. Or, ce qu'on voit, c'est totalement l'inverse. Ce qui est en train de se passer, c'est des régimes réactionnaires. Quand l'écologie va toucher à la manière dont on va se déplacer, la manière dont on va s'alimenter, se loger, etc., ça donne l'impression que finalement, l'écologie attaque tous les pans de notre vie. De ce fait-là, on a effectivement une réaction, une volonté de ne pas se laisser emporter par ça. Et c'est ce qui fait que les discours climato-dénialistes, ou sceptiques en tout cas, ont le vent en poupe en ce moment. Je pense que c'est vraiment une peur de perdre un monde qui est en train de s'éteindre.
Mais alors, Florent, cette internationale climato-sceptique, elle pèse quoi concrètement?
Alors, en Afrique, on peut se poser la question. Alors, il y a le poids, pardonnez-moi, il y a le poids des États-Unis et des menaces de Donald Trump. On l'a vu encore il y a quelques jours sur la mise en place d'une taxe carbone pour les navires de commerce. Tous ces dirigeants n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais de fait, ils forment une alliance objective. Albin Wagener.
C'est tout le programme de l'international réactionnaire, hein, c'est de sortir graduellement des coopérations internationales, c'est du chacun pour soi, ce qui maintenant fait patiner des organisations comme la COP, par exemple. Et à partir de là, ben finalement, effectivement, ça va peser de manière assez dramatique, puisque le principe du multilatéralisme, c'est que les grands États essaient de protéger les petits. Or là, c'est fini, c'est vraiment du chacun pour soi.
Et donc en Afrique, y a-t-il des dirigeants climato-sceptiques?
Non, mais au nom du développement économique, on multiplie l'exploitation des énergies fossiles. Et c'est vrai, après tout, la crise climatique, c'est pas la faute de l'Afrique.
Et en France?
Ouais, en France, on a quand même eu, il faut le rappeler, un président climato-sceptique.
Je voudrais d'ailleurs dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Ça commence à bien faire.
Nicolas Sarkozy, qui pense que ce qui menace la planète et le climat, c'est la démographie en Afrique. Alors c'est vrai qu'il n'est plus aux affaires, puisqu'il doit gérer ses affaires, ses procès. Mais en France, comme ailleurs aujourd'hui, les normes environnementales sont remises en cause sous la pression populiste. Un peu partout sur la planète, le climat n'est pas très favorable au climat.
Merci Florent Guignard, c'était notre question d'environnement sur RFI. Et tout de suite, avant le journal, un petit passage par notre playlist du mois. Le titre Vassav avec le James et Mikado.
J'aime ça qu'un petit mélodie, faut passer la CIA, musique en ICD, bah moi ça fait, voyez red tune bapé, musique bah moun qui aime, moun passe cochonni, moi ça avance en bandit, en laissant en café des lits, hey moi dit tonton Jackie, que douce en camanti, pendant you all les magies, viens dit qu'on you dans le déni, moi en la bouffe musique, si ou pas ça, faut qu'il t'en li, si ou pas ça, vois ça, ok ça, pas fun, ok ça, ça, si ou pas ça, vois ça, ok ça, pas fun, si ou pas ça, vois ça, ok ça, pas fun, ok ça, ça, si ou pas ça, vois ça, ok ça, pas fun. Un fois bas ça m'y tente tout, grand maman prend nous pour malade, mais pas fait chata ça, bas s'arrêter raconter salade, en poser la cohibi, la kajombi à de palace, et qu'on s'est messieurs pani, ou besoin fausse compagnie, gachiline bi sexy mi au rivé à bomini, pendant ces messieurs et puis cabri ou un chop à la pli, et tout ça qui prépare, un cadillo toute la topie, on était pris au sud la cagade, mais n'est belle la vie, nous capotez mon neve. Si ou pas sav, vois sav, ok sav, pas fun, ok sav, sav. Si ou pas sav, vois sav, ok sav, pas fun, si ou pas sav, vois sav, ok sav, pas fun, ok sav, sav. Si ou pas sav, vois sav, ok sav, pas fun. Retro chat, la cabo frisson qu'on glace, la cafon tête ou qu'on craque, la pifo brené qu'on salsa. Mais c'est pas tout ça, l'autant travail pour ça, avec ça qui bat moins force, la ni discipline en tout ça. Pour l'opli 5 fois café coulé, pour l'opli 5 fois la veille coulé, pour l'opli 5 fois café coulé, pour l'opli 5 fois la veille coulé. Si ou pas ça, vois ça, ou que ça, pas fun, ou que ça, ça. Si ou pas ça, vois ça, ou que ça, pas fun, vois ça.
WhatsApp, titre de Le James avec Mikado, c'est sur notre playlist RFI à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, la voix, elle se forme à travers les cordes vocales. Quels facteurs peuvent les fragiliser? Comment prendre soin de cet organe de la parole? Demain, les maladies chroniques sont souvent vécues comme un fardeau pour les patients. Comment la psychiatrie peut aider à mieux vivre cette épreuve?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI. 8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée par la police pour surveiller les villes et les citoyens. Qu'attendre de la révolution de l'IA et pour quelle efficacité? Sommes-nous réellement plus en sécurité sous haute surveillance?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.